Philippe Solers. Tel quel. 1960-1983. Philippe Solers. L'infini. 1983.
Comment avez-vous rencontré Marcelin Planet ?
Marcelin, je pense...
Il est toujours à vos côtés.
Oui, c'est... Vous voyez, quand on dit que je ne suis pas fidèle en amitié, au contraire. Marcelin, il était... Il avait écrit quelques textes tout à fait extraordinaires. Est-ce que vous avez lu Provisoires à mort des nègres ? Ah oui, c'est beau, ça. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était d'une originalité totale, et je crois qu'il est très, très méconnu comme poète. J'arrête pas d'entendre parler de poésie, de poète. Moi, je n'aime pas beaucoup la poésie. Et Marcelin, il a, je sais pas, d'abord ses textes m'ont toujours paru très radicaux, très, très juste et énigmatique. Et puis la peinture, le goût. C'est quelqu'un qui a un goût rapide, très sûr, à mon avis. Alors, finalement, quand vous rencontrez des gens qui ont beaucoup de goût, le temps passe et vous ne vous rendez pas compte que vous les connaissez depuis si longtemps, puisque c'est le goût qui fait le point d'accord.
Mais c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses.
C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, mais à travers un goût très sauvage, très, très, très violent, d'après moi. Hein, c'est quelqu'un de très... très courtois, très urbain, mais vous sentez quand même la violence du goût. C'est pas un goût, comme on dit que quelqu'un a du goût comme ça, parce qu'il a appris ce goût d'autres personnes qui avaient elles-mêmes du goût. Il a du goût filtré à travers une grande violence qu'il remet dans un état de vérité du goût. Qu'est-ce que c'est avoir du goût, ça ? C'est assez mystérieux, mais tout de même très animal. Et quand je me rends compte que j'ai perdu des gens de vue, que je me suis... Eux se sont fâchés, ou je me suis fâché, enfin on a cru qu'on était fâchés, ça n'a aucune importance. Je pense que ça a toujours été pour des questions de goût. Ce qui est assez...
Parce que votre face-à-face a commencé en 60, avec la naissance de Tel quel, et continue, puisque vous partagez le même bureau.
Oui, c'est
chez Gallimard.
Et on s'ennuie jamais, parce qu'on a toujours des petites bricoles à se dire, qui vont de l'anecdote psychologique à la réflexion sur tel ou tel point de théorie, et... C'est toujours plaisant. Et d'ailleurs, on se vouvoie. Et on ne s'intéresse pas tellement à nos vies réciproques. Je peux rester très ami avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ma vie. Et moi, je ne m'intéresse pas non plus à la sienne. Voilà.
L'homme de l'évitement. Voilà. Bien, vous lui posez une question, il ne répond pas, ou il répond de façon latérale. Alors, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez encore en mémoire votre rencontre, votre première rencontre ?
Oui, vaguement, très très vaguement. Je pense que ça s'est fait par l'intermédiaire de Jean Cayrol, où Solers avait publié dans la collection duquel Solers avait publié et où je publiais moi-même. Et je crois que nous ne nous sommes pas tellement rencontrés lors de notre première rencontre. Nous nous sommes vraiment rencontrés lors de la publication du Parc, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé et à partir duquel je souhaitais rencontrer Solers. Je l'ai rencontré, on a longuement parlé. Il me semble que c'était au Flore. On a longuement parlé et ça fait, mon Dieu, presque 25 ans. On n'a pas cessé de parler depuis 25 ans, oui. Tel quel existait, mais je ne faisais pas partie de Tel quel. Je pense que la rencontre s'est faite de part et d'autre avec un intérêt quasi exclusif pour la littérature, en tous les cas très très fort pour la littérature, une volonté au départ de prendre tout cela très très au sérieux. Je crois que l'avenir l'a démontré, peut-être trop, mais je pense que les jeunes gens ont toujours tendance à prendre très au sérieux ce qu'ils font au départ. Et bien, mon Dieu, un travail en commun sur ce qu'il en était de la situation dans laquelle nous nous trouvions, de la situation de la littérature que nous rencontrions à l'époque, et sur ce qui nous semblait pouvoir ouvrir l'horizon, un horizon qui n'était pas très réjouissant. Hein. Dans les années 60, on est encore très proche de l'après-guerre, avec une situation assez conventionnel en littérature et en art. Donc, si vous voulez, une volonté un peu d'ouvrir les portes, d'ouvrir les fenêtres et de faire circuler l'air. Je crois que ça s'est passé comme ça, avec des intérêts certainement plus esthétiques chez moi et plus intellectuels chez Solers, et un bon échange sur ces intérêts réciproques, à partir de ces intérêts réciproques.
Est-ce que vous compreniez, Marcelin Plenet, cette espèce de rage théorique qui habitait Solers à cette époque ?
Oui, je la comprenais d'autant mieux que j'en ressentais le besoin. Et je crois que la situation à l'époque impliquait non pas une rage théorique, mais impliquait un peu de rationalisme. Oui. Vous savez, le climat d'après-guerre, hein, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un climat de reconstitution des valeurs les plus traditionnellement médiocres. L'après-guerre en France, c'est quand même ruine matérielle, ruine spirituelle et une volonté de rebâtir sur le minimum de conventions plastiques et esthétiques et intellectuelles. Il s'agissait là d'abord de savoir un peu ce qu'il en était de cette guerre. Et vous savez, les hommes qui sont nés en 1933, qui ont assisté comme ça à la montée de cette guerre et dans la moitié du siècle, ont quand même, avec un peu de lucidité, un peu de conscience, des questions assez sérieuses à poser sur les origines de toute cette affaire. Et je crois qu'au fond, c'est un peu là-dessus qu'on s'est rencontré avec Solers, c'est-à-dire une volonté de comprendre ce qui avait donné ce chancre de la Seconde Guerre mondiale, avec ce chancre fasciste de la Seconde Guerre mondiale, et d'aller voir un peu en littérature, aussi bien dans ce qui la littérature pouvait alors avoir d'intérêt comme littérature contemporaine, que dans la première moitié du siècle, ce qui avait habité les esprits, les reins et les cœurs, oui.
L'histoire telle qu'elle, je vais la raconter par le petit bout de la lorgnette, c'est beaucoup mieux ça. On s'est fâché tout le temps avec des gens qui croyaient qu'on allait fonder des espaces familiaux. C'est tout, c'est très simple. Alors les familles, bon, c'est tellement transitoire, tellement... chacun doit avoir la sienne et puis bonsoir, mais enfin on n'est pas là pour faire des... On n'est pas là pour faire des familles. Même chose pour les groupes, les partis, les jeux, tout ce que vous voudrez. Donc c'est un espace asocial en ce sens qu'on n'est pas là pour confronter des pleurnicheries ou des dépressions. On est là pour que ça, les hypothèses puissent continuer à être émises. Alors Marcelin, je crois que ça doit lui aller aussi, je l'imagine, puisqu'il est là.
En un premier temps, si on regarde l'aventure de la revue et les premiers numéros, on s'aperçoit au fond que c'est un peu le corpus des origines de la NRF qui fait problème avec tel quel et sur lequel la revue revient, avec des options tout à fait explicites qui n'entrent pas dans ce corpus, n'est-ce pas ? C'est-à-dire d'un côté, ne pas ignorer ce qu'il en fut de Valéry, et de l'autre côté, mise en évidence d'Artaud et de Ponge, par exemple. Donc c'est une volonté, c'est a priori au départ une volonté d'intervenir dans le champ littéraire et d'en éclairer ce qui en a été un peu écarté pendant un certain nombre de temps. Donc en un premier temps, c'est ça. En un second temps, me semble-t-il, les choses se transforment en ceci que, au lieu de simplement rapprocher des textes les uns des autres, on cherche à comprendre ce qui se passe dans ce rapprochement. On cherche à comprendre ce que sont ces textes, quelles sont leurs origines, qu'est-ce qui les a produits et dans quel contexte ils ont été produits et qu'est-ce qui leur a donné la force qu'ils ont pu avoir, la force de résistance qu'ils ont pu avoir. C'est ce qu'on peut dire le moment de théorie littéraire et d'inquiétude sur les divers aspects scientifiques de cette théorie littéraire. Si vous voulez, c'est le moment aussi où on va rendre visite aux formalistes russes, par exemple, c'est-à-dire à des formes rationnelles d'approche de la littérature. Pourquoi des formes rationnelles d'approche de la littérature ? Bien, c'est aussi d'une certaine façon parce que, si vous voulez, l'analyse de cette première moitié du XXe siècle a révélé au fond qu'un type d'irrationalité avait joué très fort pour l'arrivée des idéologies les plus réactionnaires et les plus fascistes même. Donc face à ce caractère irrationnel des idéologies fascistes, un peu de rationalité nous semblait importante et je crois qu'elle a été utile. Et je pense qu'un peu de rationalité ne fait jamais de mal, même aujourd'hui. Et ça suppose alors des activités ou en tous les cas un activisme politique. C'est le troisième, ce serait en quelque sorte le troisième mouvement de la revue. Je ferai ici une parenthèse pour bien expliquer que je définis là non pas la subjectivité des gens qui ont travaillé dans cette revue, mais leur activité en tant que producteur d'un organe de presse. C'est une revue, c'est un périodique qui a toujours été épluché très soigneusement sur tous les bureaux de presse. Donc, si vous voulez, ce que je décris là, c'est en quelque sorte l'activité la plus visible et la plus évidemment sociale des écrivains qui ont fait cette revue. Donc, en un second moment, cela, avec à chaque fois un point de vue critique qui nous permet de nous déplacer. C'est-à-dire qui nous permet de ne pas être prisonniers de nous-mêmes, pas prisonniers du théoricisme, pas prisonniers du politicisme, tout en ne négligeant pas ce que la théorie peut avoir d'important, tout en ne négligeant pas la place considérable qu'occupe la politique en ces années, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'en ces années, la politique n'est pas ce qu'elle est devenue, une politique spectacle, n'est-ce pas ? C'est une politique très, très ancrée dans la réalité sociale, et c'est une politique qui rencontre des résistances, qui offre des résistances réelles. Et en un troisième moment, si vous voulez, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier que tout cela, qui soulève alors et qui déplace des noms très prestigieux, il ne faut pas oublier que les deux tiers, par exemple, de l'œuvre de Barthes est publié dans la collection telle qu'elle et d'abord dans la revue telle qu'elle. Il ne faut pas oublier que les premiers textes de Foucault sont publiés à la revue telle qu'elle, que les premiers textes de Derrida sont publiés à la revue telle qu'elle, que nous nous intéressons à la linguistique, c'est-à-dire à toutes les formes scientifiques. En un quatrième temps, volonté, je crois, de mettre en évidence ce qu'il en fut du travail plus explicitement littéraire derrière ce travail d'actualité et de presse, je crois. Et on aboutit là au dernier, à la dernière période de telle qu'elle et à l'ouverture vers l'infini. Ce qui est joli d'ouvrir vers l'infini. Je crois que on peut être satisfait de soi lorsque on s'aperçoit que à 50 ans, on abandonne un titre comme tel quel pour entrer dans l'infini.